Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission Arrefois consacrée aujourd'hui à l'histoire. J'ai le plaisir de saluer dans le studio notre cher monsieur l'abbé Philippe Furé, directeur de la bibliothèque diocésaine de Chartres, qui nous a fait dans une première émission découvrir l'implantation des Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres, qui est un très vaste diocèse. Et je pense que ça serait très bien, monsieur l'abbé Ferré, si vous pouviez peut-être nous redonner quelques éléments pour nous permettre de situer les Templiers dans le temps, dans leur fonction, donc première moitié du XIIe siècle. Et après, nous allons compléter ce que vous aviez dit de notre première émission sur l'implantation des Templiers à Chartres, dans la ville de Chartres, et je suis sûr que vous aurez encore beaucoup de choses à dire à ce sujet-là.
Alors, la mission des Templiers était d'accueillir et de protéger et de s'occuper des pèlerins de Terre Sainte. Et donc, ils étaient d'abord implantés en Terre Sainte. Mais, et comme ça rendait de grands, enfin leur service était très apprécié. Il y a eu, dans la deuxième moitié du XIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle, d'importantes donations qui leur ont été faites. Et au fond, leurs établissements en Europe occidentale assuraient l'intendance de leur mission en Terre Sainte. D'où agriculture, élevage de chevaux. On a parlé des chevaux à Arville,
les chevaux percherons,
industrie de la laine avec les moutons de Sours notamment, et tout cela soutenait la présence et l'action des Templiers en Terre Sainte. On était resté la dernière fois à Chartres, où il y a eu une petite implantation, vite délaissé, semble-t-il, au profit des autres implantations. Et au fond, le grand centre pour les Templiers, c'est pour ça que j'ai souhaité présenter les Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres. Ça incluait Arville et la grande commanderie des Templiers dans ce diocèse, c'était Arville, dont je vous recommandais l'autre fois la visite. C'est très intéressant. Et il y a une autre importante commanderie qui se trouve là au nord de l'ancien diocèse, c'est la ville-dieu d'Elancourt. Par la Nationale 10, à Elancourt, du côté de Trappes, quand on va vers Paris, on voit bien sur la gauche la chapelle de la commanderie d'Elancourt, importante chapelle du XIIIe siècle, construite d'une manière sobre, presque austère. Elle a été restaurée et elle est maintenant ouverte au public. Et vous pouvez la visiter directement ou sur Internet. Vous tapez « Ville-Dieu d'Elancourt » et vous avez... Il y a beaucoup de choses sur les Templiers sur Internet.
C'est un ordre qui attire encore beaucoup, effectivement, de curieux, de férus d'histoire.
Oui, évidemment, leur disparition tragique en France, sur l'ordre de Philippe le Bel et de son homme damné de Guillaume de Nogaret, a plongé l'opinion entouré de mystères la chute des Templiers. Je passe là-dessus.
Vous pourriez peut-être redresser l'image a gardée des Templiers.
Alors, ils étaient, donc dans notre diocèse, ils étaient très présents, comme ils étaient présents d'ailleurs toute dans l'Europe occidentale. Et nous avons en France d'importants vestiges. Vous voyez, par exemple, au Larzac, où il y a trois commanderies très, très importantes et bien conservées. Sainte-Eulalie, la cavalerie et Couvertoirade. C'est une présence de Templiers dans une région difficile où ils ont su exploiter pour le grand bien de leur ordre. Et ils étaient... Excusez-moi. Leur présence dans notre diocèse a été soutenue par l'évêque de Chartres. J'ai déjà mentionné Geoffroy de Lèves, qui a été évêque de 1115 à 1149. Et je voudrais mentionner aussi Renaud de Mousson, un peu à la fin du XIIe et au début du XIIIe, quand l'actuelle cathédrale a été édifiée. Je ne sais pas si les Templiers ont eu un rôle secret, mystérieux inspirateur des cathédrales. Là, on continue d'écrire beaucoup de choses sur la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont contribué à la construction de la cathédrale.
Financièrement ?
Financièrement, et puis sans doute aussi techniquement, par leur... c'était des gens qui savaient construire, c'était des gens qui savaient fournir l'intendance nécessaire.
En plus, comme ils étaient en contact avec Saint Bernard, qui a fait l'éloge de l'ordre, il a pu y avoir également une influence sur l'art de construire.
Sûrement, puis... Donc, parlons-en un peu de Saint-Bernard, qui avait rencontré le fondateur des Templiers au Concile de Troyes en 1129. Et ça, c'est les tout débuts de l'ordre. Les chevaliers du Temple commencent à devenir un ordre religieux, ce qu'ils n'étaient pas au début, les pauvres chevaliers du...
Autour de Hugues de Pince, ils étaient neuf compagnons.
Ils étaient neuf compagnons qui prêtaient main forte, c'est le cas de le dire, parce qu'ils étaient armés, c'était chevaliers, ils étaient armés, qui prêtaient main forte aux hospitaliers. Alors, quand je dis hospitaliers, je ne vise pas du tout les membres de l'ordre de l'hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, mais ceux qui tenaient tel ou tel établissement modeste, d'ailleurs, en Terre Sainte. Il faut bien qu'on se rende compte que la première croisade et la prise de Jérusalem a ouvert le pèlerinage de Jérusalem, qui était florissant, enfin qui était important au IVe siècle. Donc l'islam a pris possession de la région, le pèlerinage a souvent été plus difficile et il va redevenir à l'ordre du jour à partir de la première croisade. Et donc Bernard, qui avait rencontré le fondateur des Templiers, écrira une dizaine d'années plus tard un éloge de la nouvelle chevalerie, c'est le titre de son ouvrage donc qu'il adresse au fondateur des Templiers.
Et avant cet éloge, avant de parler de cet éloge du
nouvelle chevalerie,
on va écouter une petite pièce de musique.
Oh.
cette petite pause musicale qui nous a plongé un peu dans le Moyen-Âge, nous nous retrouvons dans le studio de Radio Grand Ciel avec M. l'abbé Philippe Ferré qui nous parle de l'ordre des Templiers et de l'éloge qu'on en avait fait à Saint-Bernard.
Oui, Bernard est donc admiratif pour cette fondation des chevaliers du Temple et il montre dans son ouvrage, il montre combien la vocation religieuse des Templiers ramène l'idéal de la chevalerie à sa source. Enfin, pour Bernard, c'est un retour à une vraie chevalerie et c'est un itinéraire spirituel que Bernard propose aux Templiers. Au fond, il leur demande tout simplement, mais de façon très exigeante, d'être chrétien. Et il y a toute une réflexion là de Bernard.
Est-ce que vous permettriez que je cite un petit passage justement de cet éloge de la Nouvelle Milice et là où des Nouveaux Miliciers que j'ai sous les yeux. Ce chevalier du Christ est un croisé permanent, engagé dans un double combat, contre la chair et le sang, contre les puissances spirituelles dans les cieux. Il s'avance sans peur. Ce chevalier en garde à droite et à gauche. Il a revêtu sa poitrine de la cotte d'émail, son âme de l'armure de la foi. Muni de ces deux défenses, il ne craint ni homme ni démon. Allez donc de l'avant avec assurance, chevalier, et chassez devant vous d'un cœur intrépide les ennemis de la croix du Christ. De sa charité, vous en êtes sûr, ni la mort ni la vie ne pourront vous séparer, comme il est glorieux votre retour de vainqueur au combat, comme elle est bienheureuse votre mort de martyr au combat.
Et là, pour Bernard, l'idéal chevaleresque des Templiers, leur idéal religieux, c'est vraiment la formule par excellence de la chevalerie, et que tous les chevaliers soient
vont évidemment
se
vouloir
convertissent,
se convertir, suivre les Templiers, et là, l'essor va être formidable. Et on a au portail, au porche sud de la cathédrale de Chartres également, deux chevaliers, Saint-Georges et un autre à gauche, qui est sans doute Saint-Théodore, dont on a une verrière.
Moi, je l'appelle Roland.
Roland, parce qu'on a aussi dans la partie supérieure du vitrail consacré à Charlemagne, l'histoire de Roland. Il est tout à fait envisageable d'y voir aussi Roland. C'est, comme vous dites,
la présence de la chevalerie.
Le soldat du Christ, le chevalier du Christ,
au fond,
par excellence.
Bernard, qui était d'un milieu chevaleresque, pour lui, c'était la seule issue pour la chevalerie qui se perdait dans le...
En combat stérile.
Oui, d'une manière stérile, et puis dans les plaisirs de ce monde.
Il va remettre l'accent sur la vie monacale, la vie en commun des moines, en plus des moines militaires, au service des pèlerins en Terre Sainte.
Tout à fait, Alors, quand Bernard écrit, les fondations hospitalières en Terre Sainte éprouvent la nécessité de s'entourer de gens armés qui leur soient affiliés. C'est pas encore l'ordre des Templiers dans toute son organisation. Là, c'est une nouvelle milice qui est en train de naître. Et
qui va avoir sa propre règle.
Alors,
propre règle et hiérarchie plus tard.
Oui. Donc, au début, je disais il y a 15 jours, je crois, ils étaient considérés simplement comme des auxiliaires laïcs, et voilà qu'ils vont devenir des religieux et membres à part entière de cet accueil et protection des pèlerins de Terre Sainte.
Et ils font un vœu, un vœu de chasteté.
Ils font des vœux religieux.
Ils vont
devenir vraiment des religieux, faisant les trois vœux traditionnels. L'ordre religieux va naître au fond entre 1129 et 1148. Il faudra une petite vingtaine d'années pour que l'ordre se constitue, se donne une règle. Au fond, on voit, une fois que l'ordre est constitué, que la famille templière Bon, et bien sur le modèle de la société féodale, il y a ceux qui combattent, ce sont les chevaliers et les sergents, ceux qui prient, les chapelains, qui sont des prêtres, et ceux qui travaillent.
Donc la trifonctionnalité de la société.
Absolument. Avec de nombreuses personnes qui leur sont associées de diverses manières. L'on voit que dans de nombreuses familles de serfs, hein, le servage existait encore à l'époque, hein, on préfère de beaucoup dépendre des templiers plutôt que des seigneurs du lieu. Donc c'était une aubaine d'être au service des templiers, ce qui peut expliquer d'ailleurs leur grand essor dans notre pays. Alors je vous ai dit combien ils vont recevoir des dons de toutes sortes, on leur donne des terres, on leur donne des bois, on leur donne du bétail. Je disais à propos de Sourds, voilà une exploitation de 120 hectares qu'il aurait offerte clé en main.
Toute cette richesse va créer des jalousies.
Bah, bien sûr.
Elle a sans doute une première source et origine des problèmes qu'ils auront à la fin.
Ils sont riches, ils sont compétents. Ça suffit pour susciter bien des jalousies et des convoitises. Et bon, le roi Philippe le Bel aimerait bien mettre la main sur le trésor des Templiers.
Oui, parce qu'ils sont loin de leur statut de pauvre chevalier du Christ, les désormais bien dotés.
Ils ont besoin, bah oui, ils avaient besoin quand même de tout un support économique pour assurer leur mission.
Voilà, ils soutenaient aussi les implantations en Terre Sainte.
Oui, c'est. Donc, Philippe le Bel voudrait bien mettre la main sur le trésor des Templiers, puis il avait sûrement des comptes à régler avec les chevaliers du Temple. On sait, la suppression de l'ordre, c'est une affaire assez complexe, je ne peux pas rentrer, moi je ne connais pas assez pour en parler, mais oui, il va obtenir, enfin le roi va obtenir du pape à l'autorisation, enfin la suppression des Templiers. Bon, faut dire que le pape à ce moment-là était un personnage entièrement sous la main du roi. Il était archevêque de Bordeaux quand il a été élu pape. Il est le premier pape à s'établir en Avignon. A quitté Rome, vous voyez, c'est la papauté est fragile, et donc le pape ne résistera pas aux exigences de Philippe le Bel, qui va obtenir la suppression de l'ordre, à persécuter les Templiers qui sont massacrés. Un vendredi 13.
Oh, God.
Alors, nous venons d'apprendre que c'est un vendredi 13 que l'on va commencer à éliminer les Templiers.
On commence et on termine. Ça a été assez épouvantable, cette affaire-là. Au fond, après 150 ans d'existence, l'ordre des Templiers représentait une puissance militaire, économique et financière considérable. J'évoquais les jalousies et les convoitises que ça suscitait. Et puis, je crois qu'il faut dire aussi que, comme une institution qui vieillit, il a dû laisser aller. Ça n'est pas toujours la ferveur des débuts. Donc, puissance considérable, d'autant qu'ils étaient en Europe implantés le plus souvent à des endroits stratégiques, donc tenant bien en main la situation, solidement établie. Bon, je vous ai dit comment Philippe le Bel avait décidé de la suppression du temple, et le vendredi 13 octobre 1307, ça a été une opération policière de grande envergure et préparée de longue date avec beaucoup de minutie, puisque les chefs des Templiers partout en France ont été arrêtés, condamnés
sommairement.
En les accusant
de tous les maux,
sous la torture, ils ont avoué n'importe quoi, et dès qu'ils se rétractaient, ils étaient considérés comme relapses et donc promis au bûcher, exactement comme Jeanne d'Arc le sera un siècle plus tard.
De toute façon, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage.
Oui, c'est... Alors, l'ordre, sous la pression royale, l'ordre sera supprimé officiellement par le nouveau pape, Clément V, pape d'Avignon. Le pape avait convoqué un concile sur la question à Vienne, sur le Rhône, et où il semble que des évêques étrangers quand même trouvé que cette affaire-là était bien louche. Hein. Cette suppression n'était pas très catholique, si j'ose dire.
Est-ce que suppression du temple s'est passée de la même manière un peu
non.
partout?
Ah ben non, ça,
pas du tout.
Là, je ne puis parler que de
ce qui se passe en France.
De ce qui se passe en France, mais la suppression de l'ordre par le pape concernait l'ensemble de l'ordre. Mais alors le pape a pris une autre décision, c'est que les biens considérables des Templiers seraient transférés à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Alors là, ça passait sous le nez de Philippe le Bel, qui a été certainement très déçu.
Sans doute, c'est à supposer. Alors, ça sera la fin des Templiers. On en parle encore beaucoup aujourd'hui. Je sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'Arche de l'Alliance que les Templiers auraient rapporté à Chartres. Il n'en est sans doute rien.
Il y a une abondante littérature. Il y a eu, de tout temps, depuis leur suppression, depuis le 14e siècle, il y a eu des ordres du Temple qui sont nés, qui n'ont rien à voir avec les Templiers, mais des faux ordres. Bon, une littérature qui entretient le mystère. On a fait des pauvres Templiers, des personnages mystérieux, maléfiques sans doute.
Est-ce que le pape est revenu ultérieurement sur son jugement? Non, on est resté effectivement sur la condamnation.
Ils étaient exterminés.
Donc la plupart ont été brûlés sur le bûcher,
les chefs,
emprisonnés.
Puis les autres se sont éclipsés le plus discrètement possible, ou sont passés au service donc des hospitaliers, qui ont quand même continué la mission hospitalière. Vous savez, les hospitaliers qui deviendront les chevaliers de Malte. Alors là, c'est un ordre souverain qui existe toujours.
Qui est toujours effectivement très actif et très qui fait régulièrement aussi des collectes de dons pour aider aussi les lépreux dans le monde. Mmh. Et ce qu'on ignore, c'est qu'il y a à nouveau la lèpre. Mmh. Et Baudouin, le roi Baudouin, aussi était atteint de la lèpre, qui va mourir très jeune. Alors, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Je vous remercie et je pense que grâce à vous, nous avons appris beaucoup de choses.
Mais profitez peut-être de la belle saison pour aller visiter Harville, je vous le recommande.
Harville, si vous voulez bien nous rappeler peut-être ces hauts lieux des Templiers, un peu dans l'ancien diocèse de Chartres. On a parlé d'Harville.
On a Harville, et puis à l'autre extrémité de l'ancien, pas tout à fait au nord de l'ancien diocèse, la ville-dieu d'Elancourt. Donc, ils sont deux lieux tout à fait typiques et bien conservés. Enfin, à Elancourt, il y a surtout l'église, tandis qu'à Harville, il y a toute une installation.
Avec de très belles églises, toujours en bon état de conservation de l'époque romane.
L'église d'Harville est restée intacte depuis le XIIe siècle. Donc, les bâtiments actuels sont pour la plupart du XVe, XVIe siècle, avec un porche d'entrée tout à fait sympathique et gracieux.
Et
à Sours, par contre, il n'y a rien à voir. Enfin,
il n'y a plus rien à voir que des vestiges, c'est le lieu. Par contre, vous pouvez voir quelque chose à Chartres concernant les églises qui existaient avant la Révolution française. Vous nous avez parlé de l'implantation des Templiers à Chartres et on a pu découvrir grâce à vous qu'il y avait énormément de couvents, de monastères dans cette ville du XIIe et jusqu'à la Révolution, plusieurs églises paroissiales vont disparaître. Il y avait 40 églises et chapelles, je crois, avant la Révolution, grand nombre.
En
ce sens, Chartres était riche en couvents et églises. Et comme ces églises ont disparu à la Révolution, on a...
Il y en a qui ont disparu bien avant.
On a recueilli
L'abbaye de Saint-Jean aussi a disparu lors des guerres de religion.
Un pan très peu connu de notre histoire, les destructions dues aux guerres de religion. Et les vitraux qui étaient dans ces églises paroissiales qui ont disparu, que ce soit au XVIe ou plus tard, fin XVIIIe siècle, les vitraux nous sont parvenus de façon lacunaire, mais on vient de les nettoyer, de les restaurer. Mm-hmm. Et vous pouvez voir ces vitraux chartrains de la Renaissance au Centre international du vitrail qui vous montrera ce grand savoir-faire des maîtres verriers, des artistes verriers du XVIe siècle. Donc bienvenue et monsieur l'abbé Ferry, je vous remercie beaucoup. Grâce à vous,
merci.
Nous avons découvert les Templiers dans l'ancien diocèse de Chartres. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur peut-être les guerres de religion, si vous voulez bien. Donc merci beaucoup et merci à la technique et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir chers auditeurs de Radio Grand Ciel.